Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous entamons un diptyque consacré à l'histoire du droit du travail. Premier chapitre, construire le code du travail.
Pourquoi on est là ?
Ouais.
Eh ben, pour se battre contre cette loi du travail, puis accessoirement pour dire au gouvernement qu'il y en a marre de leur connerie, quoi.
Quelle connerie ?
D'aller de plus en plus taper sur les salariés, sur les gens du bas, alors que c'est les grosses sociétés, c'est les riches sur lesquels il faut taper. Enfin, c'est pour ça qu'on avait voté à gauche en 2012. Maintenant, c'est fini, quoi. Le gouvernement, il fait n'importe quoi, donc on est dans la rue. C'est pas en cassant les salariés, en détruisant le droit du travail qu'on va relancer l'emploi. Pendant des dizaines d'années, il y a eu de plus en plus d'emplois parce que c'était la croissance. Maintenant c'est la décroissance, maintenant c'est la crise. C'est pas en tapant sur les salariés, en précarisant les gens qui ont du boulot, en empêchant ceux qui n'en ont pas d'avoir du boulot parce qu'en autorisant les heures sup de plus en plus, et ben c'est ce qu'on va faire, qu'on va donner de l'emploi aux gens. C'est pas en tapant sur le code du travail, c'est pour encadrer, c'est pour protéger les pauvres. C'est pas du tout pour donner du travail, ça n'a pas été fait pour ça.
Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Henri Lacordaire.
Ils étaient plusieurs centaines de milliers le 9 mars dernier dans toute la France pour manifester contre le projet de réforme du Code du travail. Un projet applaudi par la droite et par le patronat et vilipendé par la gauche et par les syndicats. Censé booster la croissance, le texte rabote surtout radicalement les droits des salariés, alors même qu'il semble bien qu'aucune étude empirique n'ait jamais prouvé que déréglementer le travail faisait baisser le chômage. Plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement frauduleux, augmentation de la durée de travail des jeunes apprentis, travail pendant les jours de deuil. Sur quelques mesures fortes, le gouvernement a finalement fait machine arrière. Mais de nombreux autres points sont toujours d'actualité. Deux exemples parmi d'autres. Si la loi passe, la médecine du travail sera largement dévitalisée. Quant aux heures supplémentaires, elles pourront être beaucoup moins bien rémunérées. Conséquence, les syndicats d'opposition maintiennent leur appel à manifester le 31 mars prochain pour demander le retrait de cette loi sur le travail. Quant à nous, nous profitons de cette actualité pour explorer des fragments de l'histoire du droit du travail en deux émissions. Le mois prochain, il s'agira de détruire le code du travail. Ce mois-ci, nous commençons par le construire en compagnie de deux universitaires de l'Institut Régional du Travail d'Aix-en-Provence. Mais pour commencer, nous retournons dans les rues de Marseille pour glaner de nouveau quelques échos de la manifestation du 9 mars dernier. Et c'est parti.
Il y a quoi comme mesures qui vous indignent dans cette loi ?
Ce qui est le plus indignant, c'est que voilà, ça va être de plus en plus facile de licencier les gens. Les gens, ils seront licenciés avec de moins en moins de droits et ça ne va pas créer d'embauche pour autant. La deuxième mesure qui est complètement aberrante, c'est que dès qu'il va y avoir un surplus de travail dans une entreprise, s'il y a un surplus de travail, on va embaucher personne puisque la loi va profiter à ceux qui sont là et ceux qui n'ont pas de boulot, ils n'auront toujours pas de boulot. Donc c'est n'importe quoi.
Il y en a ras-le-bol que le capital nous matraque. C'est un bras de plus pour une idéologie qui est en train d'étouffer tous les peuples de la planète, quoi. Il nous matraque au niveau environnemental, au niveau social, au niveau financier, et maintenant c'est le travail, quoi. Mais c'est très bien, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là on voit bien, quoi.
Et pourquoi cette goutte d'eau, là, tu vois ?
Parce que là, je pense que cette loi, elle touche tout le monde. Elle touche tout le monde et elle a réveillé la jeunesse parce que c'est l'avenir de la jeunesse et que c'est tout le temps la jeunesse qui initie les plus gros mouvements sociaux. Donc là, il y a beaucoup d'espoir, quoi.
Si demain, vous devez chercher du travail, vous le voyez comment cet avenir-là ?
Difficile, ça l'est déjà.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a de la concurrence, on est beaucoup pour peu de postes. Ça sélectionne, c'est de plus en plus dur, faut être le meilleur, c'est ce qu'on nous rabâche à longueur de journée. Faut être le meilleur, on est en concurrence, en compétition les uns les autres et c'est assez pesant quoi.
Comment vous le qualifierez le marché du travail aujourd'hui ?
Hyper sélectif. Hyper sélectif, la barre est haute quoi. On vous demande toujours plus.
Puis il est aussi hyper flexible parce qu'avec cette loi, on devient de plus en plus fragile par rapport aux patrons. Et du coup pour nous les nouveaux, les jeunes, on n'a plus de points. On peut être viré à tout moment, on coûte plus rien en fait. Donc du coup ils ont plus de risques à nous virer quoi. Enfin, c'est dangereux.
Qu'est-ce que ça a à voir l'état d'urgence avec la manifestation d'aujourd'hui ?
Juste que l'état d'urgence, c'est une loi qui permet la répression de tous les mouvements sociaux et de tous les mouvements religieux ou en fait tout ce qui est mouvement de pensée ou de contestation qui est contraire à la logique dominante. Donc l'état d'urgence permet des assignations à résidence et des perquisitions chez les militants ou autres personnes qui pourraient ne pas penser comme il faut en fait. C'est pour ça que nous sommes là du coup.
On a un droit du travail parce que les échanges pendant très longtemps ont été des échanges instantanés. On avait quelqu'un qui fabriquait un produit et qui le vendait. Hein. Et du coup, il faut que celui qui fabrique le produit trouve un client et il faut que le client trouve quelqu'un qui fabrique le produit dont il a besoin.
Mario Correa, sociologue du travail.
Et ça fonctionne sur des relations de proximité, mais ça ne peut pas fonctionner sur des relations extrêmement générales. Et du coup, très vite après la Révolution française, on s'est posé la question de la prévision dans le long terme. Et donc, pour construire une société industrielle, il fallait qu'il y ait la possibilité de prévoir ce qui allait se dérouler. Et pour prévoir ce qui allait se dérouler, on a créé quelque chose qui s'appelle l'organisation, dans lequel on avait des relations entre salariés et employeurs qui se construisaient dans le long terme. Et donc, on est sûr de ce qui va se passer dans les relations. Et du coup, on peut avoir des projets d'avenir. Et puis surtout, on fait des économies sur la recherche d'informations. L'organisation gère l'interface avec les consommateurs. Et les salariés, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est de faire le travail qui est demandé par l'organisation. Et c'est ça qui va construire le droit du travail. Donc, il y a une raison, c'est pas simplement un problème de justice, c'est aussi un problème d'efficacité organisationnelle.
On a pour habitude de dater la naissance du droit du travail moderne à la loi du 22 mars 1841, qui limite la durée de travail des enfants dans les usines. Bon, c'est la première disposition, elle n'a pas été appliquée, mais c'est la date de naissance du droit du travail moderne. Ensuite, petit à petit, avec le développement notamment des conflits à la fin du 19e siècle, on voit se construire peu à peu une législation ouvrière. Alors, quelques dates. En 1884, la loi Waldeck-Rousseau qui reconnaît l'exercice des syndicats professionnels, côté employeur comme côté salarié, puisque auparavant, les deux types d'organisations syndicales étaient interdites. Après, on peut signaler la loi de 1898 concernant les accidents du travail.
Claire Morin, maître de conférence en droit.
Avant cette loi, le salarié victime d'un accident du travail devait, pour obtenir réparation, démontrer trois éléments, un préjudice, un fait générateur et un lien de causalité. Ces trois éléments, dans le contexte de la relation de travail, étaient très très difficiles à établir, donc les salariés n'obtenaient pas de réparation. En 1898, un deal est passé entre les employeurs et les salariés. C'est-à-dire qu'on va présumer que tout accident qui a lieu à l'occasion du travail est un accident du travail. On va également obtenir pour les salariés une réparation. Ça, c'est ce qui est en faveur des salariés.
Et l'autre partie du deal, c'est que les employeurs, eux, vont avoir la charge de payer une cotisation pour financer la réparation, mais aussi la réparation ne sera que forfaitaire. C'est une grande avancée, c'est-à-dire que tout salarié victime d'un AT va obtenir réparation.
Répond aussi à des problématiques sociales. Pour construire une civilisation dans laquelle le travail est central, il faut qu'il y ait un minimum de consensus. Ça ne peut pas se construire uniquement sur le rapport de force et sur l'écrasement des plus faibles. Et donc, du coup, on va arriver à un accord pour que ça fonctionne relativement bien. Et donc, les entrepreneurs sont aussi d'accord pour équilibrer un peu plus leur relation. Et donc, il y a des accords qui sont passés entre représentants des salariés et représentants du patronat pour créer un minimum de consensus pour que l'organisation industrielle soit plus harmonieuse et que ça ne fonctionne pas que sur l'esclavage ou sur la domination brutale.
Il y avait aussi une autre question qui est liée à ce que vient de dire Mario, c'est qu'à cette époque-là, on était dans un cadre de pénurie de main-d'œuvre. Donc les employeurs aussi avaient intérêt à fidéliser leur personnel, d'où ces avancées sociales également. Puis il y avait d'autres questions plus philosophiques avec les grands employeurs catholiques ou chrétiens en lien avec la doctrine sociale de l'Église. Et ça, ça a été aussi historiquement un élément important.
Alors ça a un rapport avec les débats actuels. Pendant très longtemps, ce qui était important, c'est de construire des relations dans le long terme. Il fallait absolument que l'organisation soit sûre que les salariés allaient rester. Donc, on récompensait la fidélité. Et du coup, ce qu'on cherchait, c'était pas l'échange immédiat, c'était pas l'échange marchand. On voulait avoir des relations dans le long terme parce que ça permet la prévisibilité et parce que c'est un fonctionnement qui est nettement moins coûteux que de toujours changer de personnel et tous les matins de savoir qui on va engager pour faire le travail.
Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.
Alors, en continuant la chronologie, on peut également citer la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire, celle de 1910 qui promulgue le premier code du travail. 1919, au lendemain de la guerre, la première loi relative à la négociation collective. C'est pas qu'il n'y en avait pas avant, mais on pose les fondements juridiques d'une convention collective. C'est un contrat qui est passé entre soit des organisations patronales ou un employeur, puisqu'elle peut être au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise, et des organisations syndicales représentatives de salariés. C'est un contrat collectif, si on peut dire, et qui va régir les relations de travail dans la branche ou dans l'entreprise.
Derrière, il y a l'idée qu'on n'est pas à parité. Les salariés pris individuellement ne sont pas à parité avec leurs employeurs et donc ils ne peuvent pas négocier à titre individuel et il faut offrir un cadre qui soit plus protecteur. Et donc on va créer l'organisation syndicale parce qu'elle représente l'intérêt collectif des salariés et elle peut négocier avec les représentants du patronat.
Et patient, retrait, Corée, dans la loi travail, ni un mandat, ni un mandat.
Il y a une véritable remise en cause de décennies de lutte syndicale qui est faite aujourd'hui par le gouvernement. C'est même pas un accord à minima parce qu'il inverse la hiérarchie des normes qui font que le code du travail qui était au-dessus de l'accord d'entreprise sera maintenant soumis dans certaines conditions à l'accord d'entreprise.
C'est-à-dire concrètement ?
Concrètement, le code du travail, c'est une référence qui joue dans toutes les entreprises, y compris les petites entreprises, donc c'est quelque chose derrière lequel le salarié est protégé. Si on inverse la hiérarchie des normes, c'est entreprise par entreprise que les choses peuvent se régler, et là par contre le rapport de force il est uniquement favorable au patron, surtout dans les petites entreprises, mais même les grosses entreprises seront impactées.
Continuons la chronologie. Donc 1919, les conventions collectives, mais également la loi sur la journée de 8 heures.
Peut-être qu'on peut préciser, avant la journée de 8 heures, on travaillait combien de temps avant ?
Alors, dans les faits, dans beaucoup d'entreprises, on travaillait déjà 8 heures. Mais en fait, par cette loi, on généralise, puisque dans certains secteurs, on pouvait travailler jusqu'à 12 heures, voire plus, par jour.
À chaque fois, ça renvoie à des problématiques industrielles et de gestion. Et le problème de l'organisation, c'est de gérer le long terme. Vous pouvez faire travailler quelqu'un 20 heures par jour, mais vous allez l'épuiser. Si vous voulez construire quelque chose qui fonctionne sur le long terme, il faut gérer les efforts des salariés. Et donc, petit à petit, on va accepter un certain nombre de choses parce qu'il faut que les salariés récupèrent et qu'ils reconstituent la force de travail et que du coup, ils soient plus performants. Donc, c'est pas simplement une histoire de pitié ou d'acceptation.
D'humanisme,
ce sont des logiques industrielles. Il faut garantir que les salariés puissent tenir face au travail.
Sur les temps de récupération, vous dites que cette loi, elle va vous toucher particulièrement, vous, dans le secteur du spectacle.
Oui, parce que dans le code actuel, on doit avoir un repos compensateur de minimum 11 heures entre deux contrats, qui peut descendre à 9, mais avec payé, mais jamais en dessous de 9. Et là, il pourrait être fractionné. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 9 heures entre deux contrats minimum, ces 9 heures-là pourraient être fractionnées. Et du coup, pouvoir enchaîner deux contrats avec 4 heures de repos, ce qui est absolument pas possible et qui est dangereux, puisque ça favoriserait les accidents du travail et ça augmenterait les cadences infernales qu'on a déjà, nous, beaucoup dans nos métiers.
Ça voudrait dire concrètement que vous pourriez faire une journée de travail, vous reposer 4 heures, et vous, par exemple, et recommencer à travailler tout de suite.
Voilà, en gros c'est ça, si la nouvelle loi passait.
Entre les deux guerres, la législation ouvrière continue à connaître des textes, mais bon, la date à signaler, c'est 1936.
Quand la récession venue des États-Unis déferle sur la France, les salaires baissent, à la discrétion de l'employeur. Il n'y a pas de salaire minimum garanti. Et pour ceux qu'on licencie par centaines de milliers, il n'y a pas de système d'indemnisation. Les chômeurs sont condamnés à marcher le ventre vide.
Extrait du documentaire « Le Front Populaire, à nous la vie » de Jean-François Delassus.
Le 3 mai 1936, pour la première fois de son histoire, la gauche unie, des radicaux communistes, remporte des élections législatives. Dès sa prise de fonction, Léon Blum convoque patronat et syndicats pour négocier.
Messieurs, vous avez maltraité la classe ouvrière pendant des années. Vous vous êtes conduits comme des propriétaires esclaves. Quelque chose a changé et pas en votre faveur. Vous donnerez une augmentation de salaire supérieure à celle que vous nous avez proposée. Vous prendrez l'engagement d'appliquer la semaine de 40 heures avec le même salaire que pour 48 heures. Les congés payés, l'institution des délégués du personnel, les conventions collectives, toutes choses que nous demandons de faire sanctionner par des lois, non dans des mois, mais dans les semaines qui viennent.
le salaire des jeunes ouvriers est porté de 80 centimes à 3 francs de l'heure. Le veilleur de nuit passe de 1,75 à 4,50. Aucune sanction ne sera prise et par conséquent, les journées de grève seront payées intégralement. 15 jours de congés payés pour tout le monde.
Le lendemain de la guerre, la mise en place ou la mise en pratique du programme du Conseil national de la résistance avec 1945-46-47, l'institution des institutions représentatives du personnel telles que les délégués du personnel, le comité d'entreprise et les comités d'hygiène et de sécurité.
Là-dessus, encore une fois, c'est pas de l'humanisme. Hein, c'est l'idée aussi qui a été exprimée par De Gaulle. On s'appuie sur ce qui résiste. Et donc, en donnant la possibilité aux salariés de s'exprimer, on construit une organisation qui est plus efficace, qui est plus cohérente. Alors que si on est sur la stricte obéissance, on obtient beaucoup, on produit beaucoup de scories dans le processus industriel.
Au niveau du management, ça se passait comment chez Orange ?
Management est assez violent, on dira. C'est pour arriver, qu'on a connu la crise des suicides, qui est importante. On avait une dame d'une soixantaine d'années qui était partie avec les pompiers chez nous. C'est pas normal. Se tuer au travail comme ça, se rendre malade pour le boulot, c'est pas normal, on n'a jamais connu ça.
Mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de l'entreprise ?
Du stress, et la pression. Énormément de pression de la hiérarchie. On est des ouvriers, on restera des ouvriers, on a toujours été des ouvriers. Le patron reste un patron, il prêche pour sa paroisse. S'il veut le bien-être de ses salariés, il doit nous écouter. C'est que maintenant, j'ai l'impression qu'il ne nous écoute plus, il ne regarde plus que ses profits, et c'est tout.
Ensuite, 1975, au lendemain du choc pétrolier, première disposition relative au licenciement économique. Hein, puisque avant, la législation sur la rupture du contrat de travail était assez réduite. On ne connaissait pas de motif particulier. Enfin, il n'y avait pas un motif personnel, un motif économique. Mais avec le choc pétrolier et la crise, eh bien, il a fallu mettre en place un dispositif de rupture du contrat de travail beaucoup plus collectif, hein, puisque avant, c'était au cas par cas, salarié par salarié, un licenciement individuel. Or là, on se retrouve avec un grand nombre de personnes à licencier. Et donc, il faut organiser juridiquement la rupture du contrat. Et dans le même temps, c'est aussi le développement des contrats à durée déterminée.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminée muette, portail verrouillé. Wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous, c'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. travailler encore.
Autre date à signaler, c'est les lois Auroux en 1982. Alors, on a tout d'abord la mise en place de la durée de 39 heures de travail par semaine et les 5 semaines de congés payés.
Journal télévisé de France 2, 15 ans plus tard, le 26 août 1997.
Priorité à l'emploi pour le gouvernement et parmi les mesures envisagées par les services de Martine Aubry, les 35 heures obligatoires à l'horizon de l'an 2000 et une surtaxation des heures supplémentaires, dans le seul but, tout cela, de favoriser l'embauche. Laurent Bailly, Jean-Louis Bousser.
Martine Aubry n'a pas encore tranché, mais selon l'une des nombreuses notes émanant de ses services, la durée légale du travail pourrait passer de 39 à 35 heures hebdomadaires au 1er juillet 2000. Cette note recommande aussi de surtaxer les heures supplémentaires afin, là encore, d'inciter les entreprises à embaucher.
Aujourd'hui, on partage le travail. C'est la réalité. Il y a ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas.
Alain Deleu, secrétaire général de la CFTC en 1997.
C'est un partage. On en voudrait un autre, 35 heures. Je pense qu'on peut y aller par négociation sur le terrain avec l'appui de l'État pour faire en sorte que les bas salaires ne soient pas pénalisés en la matière.
Contrairement à ce que racontent ce que j'appelle moi les laquais du MEDEF, ceux qui sont au gouvernement, sans distinction, hein, on a des choses à proposer et il y a des propositions pour un code du travail du 21e siècle. Et là, par exemple, il y a l'idée qu'il faudrait inscrire le principe de faveur, celui qui dit que la base, c'est le code du travail et que tout ce qui est négocié par ailleurs doit être au-dessus, bah, que ce principe-là soit mis dans la Constitution pour qu'on ne puisse plus nous refaire ce coup qui veut nous ramener un siècle en arrière. Autre chose, avoir des sanctions qui soient réellement dissuasives en cas de non-respect du code du travail, alors que le projet El Khomri, il consiste exactement à l'inverse, c'est-à-dire vous licenciez sans aucun respect des règles et on limite les dégâts financiers pour les entreprises. Donc c'est la logique inverse. Et dernier grand point, c'est la semaine de 32 heures, parce que avec maintien des salaires, parce que ce serait le moyen de donner enfin du boulot à des millions de chômeurs, et la France est riche. Hein. On nous démolit la sécurité sociale qui a été créée après-guerre, quand la France était dans un assez mauvais état. Mais aujourd'hui, si on prend le produit intérieur brut par tête de pipe, c'est 19 fois supérieur au moment où on a créé la sécurité sociale, et on ne serait capable que de démolir les acquis. La France est un pays très riche, il faut simplement que cette richesse elle revienne à ceux qui la produisent.
Voilà, ça vient pas de nulle part, c'est fini pour aujourd'hui et pour ce petit aperçu parcellaire de la construction du code du travail. Le mois prochain, nous nous intéresserons à la destruction de ce code du travail, ce sera le vendredi 15 avril à 17h. En attendant, à la technique aujourd'hui, c'était Sébastien Gély. Pour le reste, cette émission a été préparée par Claire Rivière avec Juliette Palmade. Merci aussi à Marie-Noël Battaglia et à Pauline Gervais. Merci également à Emmanuel Moreira qui a recueilli l'un des témoignages de travailleurs que vous avez pu entendre au cours de cette émission. La collection complète de ces fragments sur le travail enregistrés dans la manifestation marseillaise du 9 mars dernier est disponible à l'écoute sur le SoundCloud de Radio Grenouille. Merci également à nos deux chercheurs, Mario Correa et Claire Morin, ainsi qu'à toutes les autres personnes qui ont bien voulu parler dans notre micro. Le podcast, la programmation musicale, les liens et les références sont à retrouver sur le site de Radio Grenouille, à la page de notre émission, ça vient pas de nulle part. Bon travail à tous, bon travail à toutes, et à bientôt.